Votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous étiez très nombreux hier à souhaiter commenter le divorce au sein de l'opposition en République démocratique du Congo. Vous savez que l'unité autour d'une candidature commune en vue de la présidentielle du mois prochain n'aura finalement duré que 24 heures. L'opposition sera donc une fois de plus présente au scrutin présidentiel, mais en ordre dispersé. Et vu le nombre de réactions que nous recevons, je vous propose donc de prolonger le débat dans une trentaine de minutes. Vous continuez à nous rejoindre ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Dites-nous si la stratégie des deux leaders, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, vous semble la meilleure, la bonne, pour faire face au candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadary, ou si au contraire, cette stratégie ne risque pas de faire le jeu du pouvoir. Et on parlera également de l'avenir de ces deux leaders, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Une question qui mérite d'être posée ce matin, car il est prévu dans cet accord conclu dimanche à Genève que si l'un des signataires ne respecte pas ses engagements, eh bien il met fin à sa carrière politique. Voilà ce qui est dit noir sur blanc. On a les lettres de chacun des signataires sous les yeux, donc on aura l'occasion d'en parler, d'en débattre tous ensemble. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction des RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Plusieurs questions sur le Paris Saint-Germain après les révélations des Footleaks. Alors les Footleaks, ce sont ces enquêtes menées par 80 journalistes de 15 médias européens, des médias qui sont regroupés au sein d'un collectif et qui durant plusieurs mois ont épluché plus de 70 millions de documents. Bonjour Michak.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Calavi, au Bénin. Nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Alors, depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain se fait attaquer de toutes parts suite à l'affaire du fichage ethnique dans le cadre du recrutement au centre de formation du PSG. À ce sujet, j'ai deux questions. Comment expliquer qu'un club comme le PSG ait recours au fichage ethnique, une pratique interdite en France?
Ah oui, pratique interdite en France, passible d'une peine de prison. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, vous êtes le chef du service des sports. Alors il y a quelques jours, nos confrères de Mediapart ont révélé que ces cinq dernières années, certains recruteurs du Paris Saint-Germain ont collecté des informations sur l'origine ethnique de jeunes joueurs. Quel était le procédé?
Alors, c'est surtout la cellule de recrutement chargée de trouver des jeunes joueurs en dehors de l'Île-de-France, qui était dirigée à l'époque par Marc Westerlop, qui est un formateur connu. C'est lui qui avait révélé Didier Drogba, notamment. Donc, c'est lui qui, dans ses fiches, lorsqu'il suivait des joueurs un peu venus de toutes les régions de France, préciser notamment si les joueurs étaient d'origine africaine ou antillaise ou maghrébine, etc. Ce qui, comme le rappelait notre ami béninois, est interdit par la loi ici en France. Alors, toute la question maintenant est de savoir si c'était une initiative individuelle ou si la direction du Paris Saint-Germain avait été informée, voire avait encouragé ce genre de classement.
Alors, Marc Westerlop, ce nom qui revient souvent dans cette affaire, ne nie pas l'utilisation de ces fichiers. Hein. Il plaide, je cite ses propos, une maladresse, une erreur de sa part. Donc, ces fichiers ont bel et bien existé.
Ces fichiers ont bel et bien existé. Par contre, on ne sait pas qui en avait connaissance au sein du club. Et il faut dire que le directeur général de l'époque, Olivier Létang, est parti entre-temps. Et il est à Rennes actuellement, où Marc Westerlop l'a rejoint. Donc, ils ne sont plus au Paris Saint-Germain. Et les actuels dirigeants du Paris Saint-Germain affirment qu'ils ne connaissaient pas l'existence de ces classements. On peut être tenté de les croire dans la mesure où Marc Westerlop avait fait l'objet d'une procédure de licenciement en 2014 lorsqu'on avait rapporté à la direction du PSG qu'il avait tenu des propos au cours d'une réunion où il prôner un équilibre sur la mixité afin d'éviter qu'il y ait trop d'Antillais ou trop d'Africains à Paris. Mmh. Donc, devant la direction du PSG, il avait démenti avoir tenu ses propos. Bon, l'affaire était restée là, mais on peut imaginer que si le PSG avait failli le licencier à l'époque pour avoir tenu de tels propos, il ne pouvait pas avoir connaissance de ces classements. D'un autre côté, on dit qu'une autre cellule de recrutement utilisait des classements similaires. Donc tout ça est un peu trouble.
En tout cas, le club, le Paris Saint-Germain, parle d'une initiative personnelle et inacceptable. La direction du PSG a lancé une enquête interne et visiblement, elle s'est engagée à publier les résultats de cette enquête dans les prochains jours.
Oui. D'ailleurs, les dirigeants du PSG ainsi que les dirigeants de l'époque et Marc Westerlop seront reçus par les ministres, notamment la ministre des Sports. Mmh. Et il y a aussi une enquête en cours donc au PSG, mais aussi une ouverture de plainte contre X par la Ligue des Droits de l'Homme. Donc on pense que beaucoup d'informations vont continuer à sortir sur cette affaire.
Alors justement, Méchac, vous avez une dernière question sur les répercussions pour le Paris Saint-Germain.
Oui, on... J'ai également appris que la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et la ministre des Sports allaient recevoir les responsables du Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Que risque le PSG comme sanction s'il est reconnu coupable ?
Alors, le fichage ethnique, on le disait tout à l'heure, Alejandro, oui, est condamné par la loi française. C'est un délit qui est passible d'une peine de 5 ans de prison, 300 000 euros d'amende. Vous parliez de ces plaintes déposées notamment par la Ligue des Droits de l'Homme. Il y a d'autres organismes qui envisagent de porter plainte. Hein, voilà, la LICRA, le CRAN...
Disons que dans un premier temps, ce qui a été décidé, c'est que la Ligue française de football, la Ligue professionnelle et les ministères des Sports vont adresser un courrier à tous les clubs pour leur rappeler la loi et donc l'interdiction de tout fichage de ces types dans les clubs de football. Après, s'il y a des suites judiciaires, cela dépendra sans doute un peu des résultats des enquêtes en cours et de la vérité qui pourra sortir ou pas de tous ces entretiens.
Et sportivement, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour le PSG ? Est-ce que, je ne sais pas, la Fédération française de football peut sanctionner le PSG ? Est-ce que la Ligue de football peut sanctionner le PSG ?
Ça paraît peu probable, en tout cas, en l'état actuel, d'autant que quand même le PSG est un club qui a promu de nombreux joueurs d'origines diverses. On voit sortir du centre de formation beaucoup de joueurs qui ne sont pas blancs pour la grande majorité. Donc, et on ne voit pas vraiment l'intérêt que pourrait avoir eu le PSG à faire un tel classement. Tout ça est plus affligeant qu'autre chose.
Ouais. Autre affaire, autre scandale qui concerne le Paris Saint-Germain. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar au Sénégal, nous vous écoutons avec Alejandro Valente.
Oui, bonjour Alexandre. Donc j'ai appris sur les ondes de RFI et par Mediapa qui a révélé que Santini et je crois Platini auraient permis au Paris Saint-Germain de contourner le fair play. Alors je veux savoir effectivement quel impact cela peut avoir sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que cela peut faire l'objet d'une enquête aussi pour le Paris Saint-Germain ?
Alors, Alejandro Valente, on replante rapidement le décor. Selon nos confrères de Mediapart, le PSG aurait donc contourné les règles du fair play financier grâce à un coup de pouce de l'UEFA, et pas de n'importe qui, de Michel Platini à l'époque, et de Gianni Infantino, qui était donc le numéro 2 de l'UEFA, qui n'est autre que l'actuel président de la FIFA. Là aussi, quel était le procédé ? Que sait-on de cette affaire ?
Oui, disons que cette affaire est moins intéressante dans le sens où on connaissait la plupart des choses qui ont été révélées avec ces documents. Et ce que Mediapart ne précise pas, c'est que très vite, la direction de l'UEFA de l'époque s'est trouvée confrontée à un problème avec les fair play financiers, car c'était une procédure qu'il avait créée, que cette UEFA avait créée, pour lutter contre l'endettement excessif des clubs, qui était un vrai problème il y a une dizaine d'années.
On rappelle que le fair play interdit à un club de dépenser plus qu'il ne gagne.
Oui, avec une marge de 30 millions d'euros maximum. Donc, c'était destiné à lutter contre l'endettement excessif des clubs. Or, ces phénomènes nouveaux qui est apparu au début de la décennie, ces États richissimes qui investissent dans des clubs comme Manchester City ou le PSG, sont vus confrontés à ces procédés alors qu'on n'était pas vraiment en présence d'un problème d'endettement, mais plutôt d'un investissement excessif qui risquait de perturber les marchés du football. Donc, si on avait appliqué à la lettre les fair play financiers, effectivement, le PSG ou Manchester City auraient pu être exclus des compétitions européennes, mais ils auraient pu se tourner vers l'Union européenne en dénonçant un dispositif qui empêche l'investissement et en accusant l'UEFA de protéger les vieux grands clubs bien installés qui n'auraient pas pu être concurrencés par des nouveaux investisseurs. Donc, on savait déjà à l'époque que la direction de l'UEFA avec Platini, Infantino essayait d'appliquer intelligemment, entre guillemets, ces fair play financiers pour pénaliser quand même ces clubs sans pour autant les empêcher de continuer à prospérer.
Pour dire les choses de façon assez caricaturale, oui, l'UEFA imposait des amendes aux clubs qui ne respectaient pas le fair play financier, mais au lieu de payer par exemple 100 millions d'euros, c'est un chiffre que j'invente, 100 millions d'euros, ils ne payaient que 20.
Voilà, et surtout, hein, voilà. Surtout, elle ne les excluait pas des compétitions européennes.
Quel impact cette affaire peut-elle avoir sur le PSG en quelques mots?
Bah, disons que pour le PSG, c'est surtout un processus qui est commencé bien avant cette histoire de révélation de Football League, c'est-à-dire la décote de son contrat avec l'Office de tourisme du Qatar. Le montant de ces contrats a déjà été réduit deux fois par la chambre de jugement du fair play financier. Et aujourd'hui, devant une autre chambre d'appel, on essaye de les décoter encore, de les réduire encore plus. Donc le risque, c'est que le PSG se trouve un déficit excessif et il soit obligé, par exemple, de se séparer de certains de ses meilleurs joueurs dans un très proche avenir afin d'éviter une sanction plus lourde de l'UEFA. Donc, pour l'instant, le PSG a porté l'affaire devant le tribunal arbitral du sport en espérant que cet appel pourra bloquer cette procédure.
Affaire à suivre, donc, Alejandro.
Ah, oui.
Merci beaucoup d'être venu répondre à quelques questions que nous avons reçues sur les révélations des Football Leaks, et n'hésitez pas évidemment sur la page Facebook de l'émission à nous envoyer vos commentaires sur ces deux scandales. On repasse au standard, 33 9 693 693 70. Taneni nous a contacté de Djamena. Bonjour Taneni.
Bonjour Juan, bonjour les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons, quelles sont vos questions?
Juan, Azi Abidi libéré de la prison suite à son acquittement par la Cour suprême, se trouve toujours dans le pays.
Au Pakistan.
Alors Juan, je demande, quelles sont les garanties qu'elle a pu obtenir pour sa sécurité et celle de sa famille?
Ah, effectivement, cela fait une semaine qu'Asia Bibi a été libérée. Elle est toujours coincée au Pakistan. Bonjour Anne-Isabelle Tollet.
Bonjour.
Vous êtes présidente du comité de soutien Asia Bibi. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment « La mort n'est pas une solution » aux éditions du Rocher. Je précise que vous êtes journaliste, que vous avez été correspondante au Pakistan. Malgré sa libération il y a une semaine, Asia Bibi est toujours sous la menace des islamistes radicaux. Avez-vous des informations? Savez-vous si elle est dans un lieu sécurisé?
Alors, je sais qu'elle est dans un lieu sécurisé. Elle est en effet sortie de prison, mais c'est vrai que se joue actuellement un bras de fer entre les islamistes et les gouvernements. Donc, Asia Bibi est avec sa famille en lieu sûr, même si c'est tout relatif, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2011, le gouverneur du Punjab, qui s'appelait Salman Taseer, qui devait être en sécurité avec son garde du corps, a été assassiné par son propre garde du corps parce qu'il avait pris la défense d'Asia Bibi. Donc, tant qu'elle n'a pas quitté le territoire pakistanais, c'est vrai qu'il faut être prudent. Elle n'est pas à 100% en sécurité parce que il faut se représenter que tous les islamistes du Pakistan, qui représentent quand même quelques millions de personnes, veulent absolument sa mort. Et, sa tête est mise à prix. Il y a même, des primes à celui qui parviendra à tuer Asia Bibi. Donc il est urgent en effet de l'exfiltrer, mais c'est vrai que pour le moment ça bloque un peu parce que elle n'est pas seule, il y a sa famille aussi qu'il faut rapatrier et il faut organiser les visas et tout ça. Et puis quand même les islamistes continuent à maintenir une pression assez forte et tant qu'elle n'est pas exfiltrée. On ne sait pas si...
Effectivement. Alors justement, vous parliez, Anne-Isabelle Tollet, de visa. Taneni a des questions à vous poser justement sur les visas et sur la possibilité pour elle d'aller vivre dans un autre pays. Taneni.
Oui, Juan, dans quel pays sera-t-elle désormais accueillie?
Alors, Anne-Isabelle Tollet, ce qu'on sait, c'est que le mari d'Asia Bibi demande l'asile pour sa famille et pour Asia Bibi, évidemment, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada. On sait que la France, et notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dit prête à l'accueillir. Que sait-on à l'heure actuelle?
Je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont en train de préparer des visas pour l'Union européenne. Donc ça exclut pour le moment l'Angleterre. De toute façon, il se trouve que l'Angleterre a dit hier qu'il ne voulait pas les accueillir pour éviter de semer le trouble aussi en Angleterre où il y a une énorme communauté pakistanaise et quelques islamistes aussi planqués ici ou là. Donc pour une première étape, en tout cas, on peut dire que ça sera l'Europe. Donc peut-être la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, mais à vrai dire, peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle soit posée sur le territoire européen. Après, dans un deuxième temps, on pourra envisager une coopération transatlantique avec le Canada, par exemple.
Avec le Canada ou avec les États-Unis. Mais y a-t-il des négociations sérieuses entamées aujourd'hui entre un pays, un gouvernement et la famille d'Asia Bibi?
Oui, dans la mesure où la semaine dernière, moi, je me suis entretenue avec le gouvernement, Luc Darcet et la ministre Marlène Schiappa qui a fait un compte-rendu au président Macron, où il était question en effet que Emmanuel Macron appelle ses homologues européens pour qu'ensemble, voilà, ils se mettent d'accord pour en tout cas l'exfiltrer avec sa famille le plus rapidement possible sur le territoire européen. Après, finalement, ils sont en train de voir quel serait le pays le plus opportun et le plus sécurisant finalement pour se poser. Mais je sais aussi que Emmanuel Macron a sans doute parlé à Justin Trudeau, parce que j'avais soufflé à l'oreille de la ministre Schiappa d'envisager une coopération transatlantique avec Justin Trudeau au Canada, parce qu'il y a une énorme communauté pakistanaise et bienveillante à Toronto notamment. Et il se trouve que Justin Trudeau, lors des commémorations du 11 novembre, a dit qu'il accueillerait avec grand plaisir Asia Bibi et sa famille sur son sol canadien.
À suivre donc. Merci beaucoup Anne-Isabelle Tollet. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité de soutien d'Asia Bibi. On suit évidemment ce dossier de très très près. Merci Taneni de nous avoir appelé de N'Djamena. Je m'excuse pour Davy de Pointe-Noire. Malheureusement, on ne pourra pas vous prendre ce matin sur l'antenne de RFI. Il nous reste à peine 2 minutes, donc ce serait dommage de ne pas prendre le temps de vous répondre. Vous aviez des questions sur cette enquête publiée il y a quelques jours qui révèle que le nombre de jeunes filles excisées a fortement diminué sur le continent africain. Donc Delvy, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout ça hors antenne, on vous rappellera pour qu'on puisse évidemment vous répondre, puisque vous souhaitiez comprendre finalement ce qui avait permis cette baisse de l'excision sur le continent africain. Donc soyez-en sûrs, nous vous rappellerons. Vous continuez évidemment à nous contacter au standard, nous allons vous donner la parole dans une dizaine de minutes pour revenir sur ce coup de théâtre en République démocratique du Congo après la décision de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, qui sont les deux poids lourds de l'opposition, de ne plus soutenir le candidat unique qu'ils avaient eux-mêmes pourtant désigné 24 heures plus tôt. Coup de théâtre évidemment, rebondissement, puisque on s'attendait à ce que l'opposition aille avec un candidat commun, et bien finalement, une fois de plus, elle se présentera en ordre dispersé. Alors cette stratégie ne risque-t-elle pas finalement d'ouvrir un boulevard aux candidats de la majorité? Vous êtes nombreux à souhaiter donner un point de vue, à souhaiter vous exprimer. Alors il y a ceux qui comprennent évidemment l'initiative d'Étienne Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Et puis il y a, disons-le, la majorité de ceux qui nous contactent, qui sont vent debout. Il y a par exemple Alfonso. Alfonso, il est congolais. Il nous écrit d'Australie et il nous dit « Une fois de plus, les intérêts partisans l'emportent sur l'intérêt général, car le vote de Genève était un test démocratique pour l'opposition qui, malheureusement, vient une fois de plus de prouver qu'elle n'est pas digne de la confiance du peuple congolais. » Voilà une réaction bien tranchée. Il y en aura d'autres, évidemment, tout à l'heure en direct. Appelez-nous, rejoignez-nous. RFI vous donnera la parole. 33 9 693 693 70, et vos réactions forcément sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.